On est Pirkei Avot, Perek He, Mishnah Yutet. 19e Mishnah. Kol mi sheyesh biyado shlosha dvarim halalu. Chacun qui a dans sa main ces trois choses, mitalmidav shel Avraham Avinu, il est automatiquement un élève d'Avraham Avinu. Même s'il habite, même s'il vit 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans plus tard, il n'a jamais vu Abraham. Mais le fait qu'il a ces trois choses dans la main, automatiquement, il va devenir un élève d'Abraham Avinu. Ce qu'il va faire dans sa vie, ça sera dans l'enseignement d'Abraham Avinu. Et ce qu'il y a dans sa main, trois autres choses. Mitalmidav shel Bilam Arasha. Eh bien, automatiquement, c'est un élève de Bilam, même il n'a jamais vu Bilam. Il est 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans après Bilam. C'est pas grave, il est son élève. Ça veut dire qu'il y a des formes d'éducation, des formations de caractère. Ce sont des caractères de l'homme. Et l'homme qui se forge un certain caractère, ces trois caractéristiques étaient à Bilam. Ce qui a ces trois caractéristiques, automatiquement, il est dans le chemin de Bilam. Donc, il risque de finir avec un Bilam. Il a les caractéristiques et donc tout ce qu'il fait dans la vie doit faire attention de ne pas devenir un Bilam. Les premières trois choses, il est sur le chemin, il peut devenir un Avraham Avinu, en tout cas sur son chemin, même s'il ne devient pas un Avraham Avinu, mais il est sur ce chemin. Il a un maître. Les caractéristiques, ce sont des maîtres qui lui enseignent comment agir. En vérité, Bilam Arasha, c'était un Arasha. Il a fait des grandes Averot. Avraham Avinu, il était un tzaddik. Il a fait beaucoup de mitzvot. Il n'a pas fait des Averot. Mais maintenant, la Mishnah vient nous enseigner que la différence essentielle de ces deux personnalités, ce sont trois caractéristiques. Il y a une Torah, il y a des mitzvot, il y a des averot. Normalement, on dit un élève d'Avraham Avinu, c'est un homme qui a accompli la Torah. Oui. Avraham Avinu, il a accompli la Torah. Ce qui a accompli la Torah, c'est un élève d'Avraham. Bilam est un rachat. Donc, ce qui fait des Averot, c'est un élève de Bilam. Mais cette Mishnah, elle ne nous dit pas ça. Pas parce que c'est faux. Parce que la Mishnah ne parle pas à la fin du chemin. La Mishnah parle au début du chemin. Un homme, il commence. Il n'a pas encore fait des mitzvot, peut-être. Il n'a pas encore fait des averot, peut-être. On est avant. C'est la définition entre tzaddik et racha. Ce qui fait des mitzvot est tzaddik. Ce qui fait des averot, c'est un racha. Cette définition, elle est juste. Mais ce qui nous intéresse ici dans notre Mishnah, c'est de comprendre pourquoi un, il arrive à faire les mitzvot. Et pourquoi l'autre, il risque d'arriver de faire des averot. Et là, ce n'est pas la mitzvah. Avant, nous avons vu dans la Mishnayot, mitzvah goreret mitzvah. Avera goreret avera. Oui, c'est tout à ça, ça fait juste. On a vu les limous de la Torah, l'amena des mitzvot. Ce qui est mezalzel dans une petite avera, il va faire une grande avera. Tout ça, ça c'est juste. Mais maintenant, nous sommes avant, nous sommes encore plus tôt. Pourquoi un, il choisit des mitzvot, l'autre, il choisit des averot? Parce qu'il choisit. Ah, ça c'est la prira, un homme il peut choisir. Mais la Mishnah nous dit quelque chose, qu'il y a certaines caractéristiques des tendances de l'âme, et grâce à ces tendances, ce sera pour lui facile à faire des mitzvot. Il pourrait s'inspirer de ces caractéristiques, et normalement ils vont pencher plutôt ses décisions, il prendra vers les mitzvot. Et les autres choses, ils risquent de le conduire vers des averot. Ça, c'est l'élève. On parle ici des élèves, un talmide. Un talmid, c'est au début, il va au cheder, il a un maître. Et le maître, il va maintenant le former pour lui donner un chemin. Alors, Avraham Avinu, il a vécu à 3000 ans, il a créé un chemin. Ce qui rentre dans ce chemin, il est son élève. Et après, au fur et à mesure, il va faire la Torah et les mitzvot. Et l'autre, il va faire des avérot. Alors, quelles sont ces trois caractéristiques que le Tana, il considère comme si important la différence essentielle entre Avraham et Bilham? Aïn Tova, un œil qui est bon. Œil veut dire satisfaction. Tova, une bonne satisfaction. Un homme qui est satisfait ce qu'il a. Le bonheur, être heureux. Ça, c'est être heureux, le bonheur de quelqu'un. Ça, c'est Aïn Tova, le bonheur avec ce qu'il a. Pas le bonheur avec ce qu'il aura. Pas mettre le bonheur dans le futur. Si je vais recevoir telle et telle chose, j'aurai le bonheur. Non, Aïn Tova, c'est maintenant, avec ce qu'il a, il a le sentiment de bonheur. Ça, c'est le premier sod d'Avraham Avinu. Le Ruach Nemucha, un esprit namuch, c'est la modestie. Il n'a pas besoin que les gens l'honorent. Avec l'honneur qu'il a, il est content. Il ne dit pas, si j'aurais plus d'honneur, alors là, je trouverai mon bonheur. Mon bonheur dépend de quelque chose que les gens ils vont m'honorer. Ce que j'ai maintenant, avec cet honneur, ça suffit. Mais nefesh efela. Nefesh, c'est nefesh ici, c'est dans le sens les désirs de ce monde. Les désirs de ce monde, shefela, shafel. Shafel, c'est bas. Il a des petites exigences pour les plaisirs. Il a un petit appétit pour les désirs de ce monde. Avec ces trois caractéristiques, après, le kiyom haTorah est facile. Avraham Avinu, il avait très ses qualités, Aïn Tova. On nous raconte quand le roi de Sodome, qui était riche comme Crésus, peut-être plus riche comme le roi de Sodome, milliardaire, multimilliardaire, il a dit à Avraham Avinu, je t'offre tout. Rends-moi les hommes de Sodome, parce que je serai le roi sur eux. Je veux reconstruire ma ville, donc il me faut des hommes. Mais je te donne tout mon argent. Avraham Avinu, dans une seconde, il aurait pu devenir l'homme le plus riche du planète. Eh bien, il a dit, merci beaucoup, je ne le prends pas. Bon, alors si vous ne prenez pas tout, vous prenez la moitié. Non. Bon, alors vous prenez un dixième. Non. Un centième. Non. Un millième. Non. Ça veut dire quoi, non? Rien. Je prends même pas des lacets, des chaussures. Rien. Je ne veux pas ton argent. Ton argent n'est pas... Elle n'est pas... C'est pas du bon argent. C'est quoi, c'est pas du bon argent? C'était gagné malhonnêtement. Quoi? Tout l'argent était malhonnêtement. La moitié, quoi? Tout était pas bien. Tout était vol. C'était vol. Seulement, il y avait des mines d'or. Il y avait des mines de diamants. Seulement, il voulait pas partager avec les pauvres. Oui, c'était des gangsters. Mais pas tout était gangsters. Ils avaient des mines d'or. Ça leur appartenait. Mais le roi de Sodome ne l'a pas offert de bon cœur. Et si l'autre te donne quelque chose qu'il ne t'offre pas de bon cœur, mieux vaut refuser. Mais celui qui n'est pas content avec ce qu'il a, il dit « mon bonheur dépend de ce que je vais recevoir demain ». Si Avraham Avinu il avait un petit peu ce caractère, il aurait dit au roi de Sodome, bon, donne-moi, ou donne-moi la moitié, donne-moi 10% de ce que tu m'offres, donne-moi quelque chose. Avraham Avinu, niet, rien de tout, j'ai pas besoin. Tu l'offres pas de bon cœur, j'ai pas besoin de ce genre d'argent. Et ça ouvre la porte pour toute la vie, d'être honnête, t'as pas besoin de tourner la tête aux gens, de leur donner de l'argent, ça le protège de tellement beaucoup de averot parce qu'on a Aïn Tova. Ruach Nemucha, Abraham Avinu, il avait Ruach Nemucha. Il était très modeste. Comme il est dit à Kadesh Baruch Hu, Anochi, Afar Va'efer. Moi, je suis de la cendre. Ça veut dire, j'exige rien d'honneur. Moi, j'exige rien. Un homme qui n'exige aucun honneur, il a beaucoup de temps libre. Il peut utiliser toutes ses forces pour vraiment faire la Torah et les mitzvot. S'il n'a pas accès à Torah et mitzvot, c'est quelqu'un qui habite dans un pays et n'a jamais entendu ni de Dieu, ni... mais il est né avec ce caractère qu'il est content, qu'il n'a pas besoin d'honneur. Ça lui donne aussi beaucoup de temps libre. Il n'a pas besoin de vice. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec? S'il n'a pas Torah mitzvot, comment il va faire Torah mitzvot? Donc, la Mishnah, évidemment, quand elle dit qu'il est un élève d'Abraham Avinu, ça veut dire qu'il va aller loin dans la Torah mitzvot. C'est évidemment quand il connaît les Torah mitzvot, justement. Mais il a besoin des moyens pour qu'on le stoppe pas. Il ne faut pas que les mauvais midot lui mettent une embûche pour faire Torah mitzvot. Alors, le fait qu'il n'a pas besoin d'honneur, il n'a pas besoin de l'argent de l'autre. Et ça ne lui dit rien. Alors, ça lui donne du temps, ça lui donne du calme, ça lui donne potentiellement la possibilité d'apprendre beaucoup de Torah, de faire beaucoup de mitzvot, ma'asim tovim. Il peut se développer comme Avraham Avinu. Et la troisième chose était nefesh shevela. Il n'a pas besoin, il n'est pas penché vers le désir de ce monde. Donc, il est sauvé de tous les gens qui courent derrière le désir, derrière le plaisir. Donc, il est sauvé de ça. Eh bien, il a une facilité de marcher sur le chemin d'Abraham Avinu. D'où on voit qu'Abraham Avinu, il avait nefesh shevela, parce qu'il avait la femme la plus belle du monde. Et quand il descendait en Égypte, il a dit, « Hine nayadati ki yeshayefat mariat » Je viens de me rendre compte que tu es belle. La Gemara raconte, Sarah était la plus belle femme du monde. C'est toutes les femmes du monde sont comme des singes devant Sarah, comme ça dit la Gemara. Comme des singes. Ça veut dire quoi? Un singe, un homme. La Gemara dit ça pour Yaakov Ovin aussi. Abraham Ovin était tellement beau. Tous les gens vis-à-vis de Yaakov, c'est comme des singes devant Yaakov. Et Yaakov de Avraham Avinu, c'est comme un singe devant un homme. Alors, quand il a créé Adam Vechava, il a créé quelque chose de top, du top dans tout. Intelligent, une beauté. Ça, c'est Sarah. Alors, Avraham Avinu est la femme la plus belle, mais il n'est pas au courant. Par hasard, il a aperçu, il y avait l'histoire du fleuve, il voyait le fleuve, il a aperçu. Il n'a jamais aperçu. Parce qu'il ne levait pas ses yeux. Avraham Avinu avait toujours les yeux par terre. Il ne levait pas les yeux. Ça, c'est une caractéristique d'Avraham Avinu. Celui qui a ça, qui est né avec ça, il a un immense potentiel. Maintenant, quand on n'est pas né avec ça, quand on n'est pas né avec Aïn Tova, Ruach Nemucha, Nefesh Shevela, alors le Tanakh, qu'est-ce qu'il veut de cet homme? Il veut de cet homme, habitué à ça. Travaille sur ça. Essaye de acquérir à Intova Ruach Nemucha et Nefesh Shevela. Si tu acquiers cela, tu rentres à l'école d'Abraham Avinu. Après, dans l'école d'Abraham Avinu, tu vas aimer Hashem, tu vas faire des mitzvot, Maasim Tovim, tu vas aller loin. Maintenant, il y a trois autres caractéristiques. Aïn Ra, un œil Ra, c'est quoi? Un œil insatisfait. Oui, je ne suis pas satisfait. Il me faut plus que j'ai. Il est malheureux. Combien tu as besoin? Eh bien, il y a beaucoup de degrés dans Aïn Ra. Il y a, j'ai besoin 10 000 euros, 100 000 euros, 1 million, 10 millions, 100 millions. Tant que je ne serai pas l'homme le plus riche du monde, eh bien, Kolzenen Achoveli, comme il est dit Haman, je vois que tout le monde se prosterne devant moi, sauf quand je vois Mordechai et Oudi qui ne se prosterne pas, Kolze Enenu Shoveli. Alors, toute l'honneur du monde que j'ai, que tout le monde se prosterne devant moi, ça ne me vaut rien. Parce qu'il y en a un juif qui ne se prosterne pas. Ça, c'est le plus grand Aïn Ra qui existe au monde. Le dernier du dernier qui ne se prosterne pas devant moi, ça me gêne. Et ça, c'est Bilam Harasha. Il avait un Aïnra. Il voulait l'argent. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Il avait une Tahava à l'argent. Où on voit qu'il avait un tel Tahava? Parce qu'il est dit à Balak, Imiteli Balak Melo Beito Kesebezahav. Si Balak, il me propose Melo Beito, sa maison remplie Kesebezahav. Donc on peut s'imaginer Balak, il a un grand palais, je ne sais pas, il a 1000 mètres carrés, il remplit sa maison de l'or et de l'argent. Si Balak me propose ça, moi, je ne peux pas transgresser la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bilam, en vérité, est un personnage très complexe. Il faut écrire des livres sur Bilam, c'est très spécial. Un philosophe, le plus grand philosophe du monde, un homme de Dieu, un homme avec qui Dieu communique, l'homme qui a proposé aux nations la Torah. Quand Hachem, il a donné la Torah au peuple juif, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Demande les juifs s'ils veulent recevoir la Torah. Mais il a proposé aussi à Ishmaël, il a proposé aussi à Esav. Par qui? Par Moshe. Moshe n'avait pas le temps d'aller chez Edom, chez Ishmaël, on ne lui a pas demandé de le faire. Alors, c'est Bilam, comme dit Chazal. Hachem, il a envoyé Bilam. Bilam, il est venu chez Esav, chez Ishmaël. Je suis envoyé par Dieu. De vous proposer une Torah, qu'est-ce que vous en dites? Bilam, il propose la Torah, ça veut dire qu'il a compris la Torah. Bilam, c'est un grand personnage. Et quand on lit le Chumash, je ne peux pas transgresser rien de ce que Dieu me dit. Il annonce la couleur tout de suite. Et il joue même le très honnête. Même si Bialak me donne toute sa maison pleine d'or et d'argent, je ne peux rien changer, une iota de la parole de Dieu. Ah, il est très très religieux. Il est vraiment religieux, Bilam. Et il dit, fais-moi, à Balak, fais-moi des misbechot, 7 misbechot, et tu vas faire pour Va'ayil, fais des sacrifices, et je vais me mettre, moi, je vais maintenant me mettre en état de transe et je vais prendre le contact avec Dieu. C'est un grand bonhomme. Et alors, où ça cloche? Mais qu'est-ce qui cloche? Il était pervers. Mais qu'est-ce qui l'a amené de oser de vouloir détruire le peuple juif? Eh bien, la Mishnah nous raconte qu'il y avait des caractéristiques en lui. La première, c'était Aïn Ra. Il voulait toujours plus d'argent. Où on voit? Il dit, si Balak me donne sa maison pleine d'or et d'argent. Mais on ne t'a pas proposé ça. Voilà qui voulait te payer. Vous le payez 20 000 euros pour le service que tu vas lui rendre si tu maudis. Il va te donner 20 000 euros. On ne t'a pas proposé 10 milliards, la maison pleine d'or et d'argent. Et pourquoi lui, il dit, même s'il me donne sa maison pleine d'or et d'argent, ça veut dire il a espéré. C'est ça qu'on appelle le lapsus révélateur. Dans son cœur, il était au lit, il a rêvé, si Balak, toute cette richesse, j'aurais bien voulu l'avoir. Comme ça, toute sa vie, il rêvait d'être un milliardaire. Et quand c'est arrivé donc une éventualité, peut-être Balak qui va me louer, il va me payer, je vais lui demander un prix, il va me proposer un prix, et bien ce qui monte à son esprit en premier lieu, c'est que toute sa maison pleine d'or et d'argent. Ça veut dire, ça, c'était sa nature. Eh bien, cette nature, un homme qui veut toujours avoir plus d'argent, ça, c'est Aïn Ra. Eh bien, malheureusement, ce sera difficile pour lui de faire la Torah. Parce que à chaque décision qu'il prendra, il va peser le pour et le contre. Je vais étudier ou pas étudier? Je fais cette mitzvah, je ne fais pas cette mitzvah? Attends, d'abord, il faut que je vois où je gagne plus d'argent. Ici, je gagne plus d'argent. Gagner d'argent, c'est la première des choses que j'ai besoin de faire. Donc, il va mesurer toi au mitzvot selon s'il va arriver à la conclusion qu'il sera millionnaire ou milliardaire. Et ça, c'est très difficile après de faire la Torah. Donc, c'est ceux qui ont cette midada inra, ils rentrent dans le chemin de Bila, même s'il n'a pas fait d'Avera. Et peut-être il ne fera pas d'Avera. Mais il est un élève, il est à l'école de Bilam. Donc, ceux qui sont à l'école de Bilam, il pourrait finir à Bilam ou un demi-Bilam ou un dixième du Bilam. Il est en danger. Le Ruach Gevoha. Ruach Gevoha, c'est orgueil. C'est un crâneur, un mégalomane. Quand il a dit devant Balak, Mnoum Shomea Imrekel Viodeat Elion, parle l'homme qui a des visions célestes. Il parle, ah, je connais l'Esprit suprême, Dieu, je connais Dieu, je sais tout ce qui se passe. Pourquoi ce discours? À qui tu parles? Qui a besoin d'écouter ce discours? On t'a demandé une chose, de maudire les Juifs. Ah, tu veux que je maudisse les Juifs? D'abord, il faut que je vous dise qui je suis. Ah ben, moi, je suis le plus grand garant du monde. Je connais l'Esprit supérieur. Avec qu'est-ce que tu penses? Avec qui tu as affaire? Voilà, c'est un mégalo. Et quand un homme, il est mégalo, il se prend pour le plus intelligent. Il se prend plus intelligent que tout le monde. Là, malheureusement, c'est facile après de passer à côté de la plaque, de faire la Torah. Mais Nefesh Rechava, il avait une âme large. Âme large, ça veut dire un grand appétit. Un appétit des plaisirs de ce monde. Il était insatisfait, il n'arrivait pas à assouvir ses désirs pervers. D'où on le voit, parce que la dernière chose qu'il proposait à quoi? À Balak, de faire encore un coup mortel, il voulait donner un coup mortel aux Juifs. Il a dit, tu vas louer le fils de Moab, de Midian, on va faire trébucher les Juifs dans l'immoralité. C'est un homme profondément immoral, il ne se gêne pas de prendre le peuple de Dieu, le peuple qui savait que Dieu leur a donné la Torah, il leur a interdit de faire l'immoralité, eh bien, on va aller contre Dieu. Cet homme-là qui il était en orgueil, il sait que je ne peux pas dire un mot contre Dieu, il va maintenant avec toute sa ligne contre Dieu. Il sait que c'est ça que Dieu ne veut pas, donc je vais détruire, il veut détruire le peuple avec l'immoralité. Et lui, personnellement, comme on avait déjà vu, il avait épousé son ânesse, donc c'est le plus grand pervers qui existe, et c'est ça qui s'est caché derrière cette personnalité. Donc, un homme qui a des grands désirs, insatisfait de ce monde, malheureusement, il est à l'école de Bilam. Donc, il doit faire très attention. Alors, la Gemara demande, Ma ben Talmidav shel Avraham Avinu, Talmidav shel Bina Marasha. Quelle est la différence entre les deux élèves, ses élèves et ses élèves? Alors, Talmidav shel Avraham Avinu, Ochalim Bolam Azé. Les élèves d'Avraham Avinu, Ochalim. Ochalim, c'est-à-dire profiter. Ils vont le kiffer. Ochalim Bolam Azé, ils vont kiffer ce monde. Ils vont se sentir bien dans ce monde. Ils seront heureux dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'il ne leur manque pas. Quand un homme, il ne manque pas, il n'a pas le sentiment qu'il lui manque, il est satisfait. Quand on a faim, on ne se sent pas bien. Quand on est rassasié, on se sent bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle rassasié? Est-ce que c'est objectif ou c'est subjectif? Il y a une objectivité, il y a une subjectivité. Il y a écrit dans la Gemara, il y avait des Kohanim qui mangeaient l'Echem Apanim tant que Shimon HaTzadik était vivant. L'Echem Apanim avait un bracha. Et quand on mange un tout petit peu, on était rassasié. Est-ce que c'est physiquement on était rassasié ou c'est un sentiment subjectif? Il était heureux, il n'avait pas besoin plus. Alors, Ochalim Ba'olam Hazé, ils ont un bon Olam Hazé. Mais Ochalim Ba'olam Haba. Et ils auront aussi l'héritage de notre futur. Parce que ça leur sera facile à faire des mitzvot. Les élèves d'Avraham Avinu, ils vont faire beaucoup de Torah aux mitzvot. Donc, ils auront Olam Haba. Ils auront un grand profit Olam Haba. Même dans ce monde-là, ils seront aussi heureux. Et Néma, comme le texte il dit, l'anchil ohavayesh, votzrotem amale. Aval talmidav shel Bilam Harasha, mais les élèves du Bilam le Rasha, yorshim gehinom, ils héritent l'enfer, veyordim liber shachat, et vont descendre dans le puits de l'abîme. Alors, ce gehinom et ce ber shachat, est-ce que c'est pendant la vie ou après la mort? Normalement, le gehinom, c'est après la mort. Ber shachat, c'est après la mort. Et pourquoi il y a deux expressions? Kinom, Bershachat, ce sont deux noms des différentes purgatoires dans l'autre monde, des souffrances, peut-être. Mais c'est possible aussi que le Yorshim Gehinam fait aussi allusion dans ce monde, parce qu'en principe, ça devrait être plutôt parallèle avec Avraham. On a dit les élèves d'Avraham Avinu, Ochalim Bolamazé, Ochalim Bolamaba. Ils mangent dans ce monde, ils kiffent dans ce monde et dans l'autre monde. Donc, les Chorah, si on va dire un parallélisme, Yorshim Gehinom, ils héritent l'enfer, ça veut dire dans ce monde aussi. Ils ressentent ce monde comme un enfer. Pourquoi ils ressentent ce monde comme un enfer? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Parce que quand on a mis la faim, il ne peut pas manger. Quand un homme il a besoin beaucoup plus d'argent qu'il a, eh bien, il est triste, il ne se sent pas bien. Ce sont des souffrances. L'expression Gehinom veut dire souffrance, c'est une façon de parler comme le Gehinom. Il y a des souffrances. Dans ce monde-là, il vit une vie de Gehinom dans ce monde. Il n'a pas le kavod qu'il a besoin. Il n'a pas, il ne peut pas crâner comme il veut. Les gens ne le reconnaissent pas. Alors, ça lui fait souffrir. Et après, dans l'autre monde aussi, là. Où c'est possible que cette Mishnah n'est pas parallèle à Avram et Bilam? Et bien, Ginom, Bershachat, tout ça, ça c'est après la vie. C'est possible qu'il y en a certains élèves de Bilam que dans ce monde-là, ils kiffent, mais ils l'auront dans l'autre monde en principe. Je n'ai marre, car le texte dit « Va'ata Elohim, et toi Dieu, toridem le ber shachat, fais les descendre dans le ber shachat, anchedamim, des gens criminels, au mirma, de ruse, loyechetsemihem, ils ne vont pas arriver à la moitié de leur vie, vani eftachbach, moi je te fais confiance. » Alors, ça c'est David Emeler dans Tehilim. À qui il parle? À quel sujet il parle? Il parle des hommes qui étaient en face de lui. Bon, enfin, Klali, il peut parler de tout le Rachaim du monde. Mais il était mitkaven plus exactement à quelques personnes qui étaient devant lui. La Gemara raconte, c'était Achitophel, Doeg et Adomi, qui étaient des grandes personnalités. Ce n'est pas des simples personnalités. C'est des personnalités qui étaient justement des élèves de Bilam HaRasha. C'était des grands Chachamim. Achitophel était un Gaon Olam. Il était le chef du Bedin. Et pourtant, il y avait dans son cœur quelque chose qui tournait par an. Il était insatisfait. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait d'être le roi. Il voulait être le roi. Il n'a pas accepté que David et Melech était le roi. Il était un Gaon. Il considérait qu'il est plus grand Gaon que David. Il considérait qu'il a plus le mérite de hériter. Et malgré qu'il est le chef du Sanhedrin, donc tu as beaucoup d'honneur. Oui. Mais je n'ai pas l'honneur de David, je veux plus que ça. Il me revient une place plus grande. Et David Meller, c'est un gangster, il m'a pris ma place. En plus, Achitophel était l'arrière-grand-père de Bathsheba. Et David Meller, il a fait l'histoire de Bathsheba. De ça est né Shlomo HaMelech. Et Achitophel, il voulait, en vérité, si c'est sa petite-fille Bathsheba, donc Shlomo HaMelech, c'est sa arrière-petite-fille. Mais il voulait autrement. Mais il voulait autrement le malchut, pas comme David, et il a fait des pièges à David. Il voulait qu'il meure. Il s'est mis ensemble avec Avshalom. Quand Avshalom il a fait la rébellion, quand il a fait la rébellion contre David, eh ben il a donné des conseils terribles, des conseils diaboliques à Avshalom, comment agir jusqu'à s'accaparer le malchut, jusqu'à David va mourir aussi, avec toute sa grandeur, parce qu'il voulait plus de l'honneur. Donc, il était un élève de Bilam. Et sur Achitophel, sur Doeg Adomi aussi, c'est celui-là qui a rapiné David, qui a raconté Shaoul, que David a reçu l'épée chez le Kohen Gadol. Donc, le Kohen Gadol aussi, il est dans le même coup avec David pour lui choper la royauté. Et Doeg HaAdomi savait que c'est faux. David HaMelech n'a pas voulu la royauté. Et lui, il voulait aussi la royauté d'Oeg. Donc, ces grands personnages sont des élèves de Bilham. Ça veut dire qu'ils n'auraient pas été obligés de finir comme Bilham. En vérité, c'était des gens qui étaient au sectorat, au mitzvot. Mais leur caractère qu'ils ont hérité de Bilham, leur caractère qu'ils ont forgé comme Bilham, les a amenés à la fin de tout remettre en question. Et la malchoute, il luttait contre la royauté de David. C'est une rébellion, pas que contre David, contre Hachem, contre le destin de la royauté. Hachem, il a fait un destin que David, il sera le roi, et la Mashiach, il va sortir de David, et c'est comme ça finira le monde, avec le chemin de David et Melech. Achitophel, il voulait lui. Donc, il a toute sa chokhma et tous ses mitzvot, il a mis au contre d'Hachem. C'est pour ça, Achitophel n'a pas de chélek l'olam haba. Et la Mishnah, contre la Mishnah, dit dans Sanhedrin, Kol Yisrael, yesh nem chélek l'olam haba. Ve'elu, she'en nem chélek l'olam haba. Voici ceux qui n'ont pas de chélek l'olam haba. Alors, on parle là-bas des rois, des grands chachamim, Achav, Yerovam, Menaché, Yarba, et quatre personnes qui ne sont pas des rois. Doeg Adomi, Achitophel, mais en vérité, ce n'est pas que ces personnes n'ont pas d'Olam Haba, il y a encore d'autres personnes qui n'ont pas de chélek l'Olam Haba. Mais la Mishnah ne parle pas des simples qui n'ont pas d'Olam Haba. Elle parle des grandes personnalités. Elle parle justement de ces Achitophel de qui David il parle. Et ça, c'est la grande question que les gens ils se cassent la tête. Achitophel, un grand chacham, avec beaucoup de mitzvot, il perd son Olam Haba, oui, parce qu'il veut faire tuer David. Il veut faire un autre chemin, pas le chemin qu'Hachem il a voulu. Et comment il est arrivé à ça? Ça, c'est une question. Le Tanna, il s'est dit, mais comment Achitophel est arrivé à cette bassesse? Et voilà, le Tanna nous dit, parce qu'il était dans une école spéciale, l'école de Bilham. Il avait quoi? Il avait un inra, il avait un ruach gevoha, et un nefesh rechava. Il cherchait plus de l'honneur, il était insatisfait. Pour cette insatisfaction, il voulait faire sauter tout. Il était contre Hachem, il a tout perdu. Donc, il faut faire très attention, c'est ça qu'il est allé, il dit. Faire très attention, ce sont trois caractéristiques qui, malheureusement, il peut faire perdre un homme tout. Yehuda ben Teima Omer, Eve Az Kanemer, sois fort, Az. Az, en vérité, ne veut pas dire fort. Fort, c'est gibor. Après, il dit gibor, kaari. Az, c'est insolent. Az, c'est dur dans le sens, on ne se laisse pas dérouter de sa décision et on est contre des gens. Et que si tous les gens ils font un chemin, on a une insolence, une chutzpah d'aller un autre chemin. Mais cette azout, Azout, il n'est pas toujours bien. Tout de suite, il va ajouter un mot dont la Mishnah nous dit Az, soit dur, soit insolent, comme un panthère. Un panthère n'est pas très fort et il attaque des animaux plus forts que lui. Il ose. Quelqu'un qui ose, même s'il n'a pas la force physique, il ose, il a un chutzpah. Mais Kalkanesher, soit léger comme un aigle. Ratzkatsvi, court comme un cerf. Gibor Kari, soit fort comme un lion, mais pas toujours. Ce mot-là saute. Quand il s'agit de faire la volonté de ton Père au ciel. Ça veut dire, si c'est pour faire des mitzvot, il faut utiliser toutes sortes de forces qu'on trouve chez les animaux. Alors, un panthère, peut-être c'est pas le panthère, peut-être c'est un autre animal, je suis pas sûr si c'est le panthère. Alors, en tout cas, si c'est le panthère, il peut s'attaquer à un éléphant. Mais l'éléphant, il est 10 fois plus grand que toi, il est 10 fois plus lourd que toi. Et l'éléphant, s'il lui donne un coup, c'est fini. Lui, il ose. La chutzpah. Des fois, la sotre, il faut devoir une chutzpah de kedusha. Pour la volonté d'Hachem, il y a des situations où l'homme, il ne doit pas considérer les gens en face de lui, le monde entier, j'ai raison et je vais aller et je vais faire la volonté d'Hachem. Ça doit exister. Seulement après le même Tana, il dit, tout de suite après, Houaya Omer, lui, le même Chacham, il a dit, Az Panim le Gehinom, un homme qui a Azpanim, un homme insolent, il finira au Gehenom. Le Chora, il se contredit, le Chacham. Au début, il dit, il faut être Az, et après, il dit, il va au Gehenom. Parce que normalement, la Mida de Chutzpah, insolence, impertinence, une Chutzpah de son gène, de grossièreté, sans décence, eh bien, ces gens-là, en principe, ils transgressent tout. C'est la chutzpah, on ne reconnaît pas ni parents, ni maîtres, ni sages, ni la société. C'est une grossièreté, ça amène l'homme à l'enfer. Il va rentrer au Gehinnom. Mais, il y a des moments où c'est oui bien. Il y a une espèce de azout, la sotre tzon avir hachem bashamayim. Dans ce cas-là, c'est une bonne chose. Même les mauvais midot, parfois, il faut les utiliser, la sotre tzon avir hachem bashamayim. Vekal kanesher, et soit léger comme un aigle. Après dirat, va courir comme un cerf. C'est quoi la différence entre la légèreté d'un aigle et courir comme un cerf? C'est commencer à agir et l'autre pendant l'action. Sois léger, commence, bouge-toi, prends une action, ne reste pas assis sur ta chaise. Léger, ça veut dire quand il y a une plume, un petit vent, il la lève. Et quand il y a un poids de 20 kilos, il faut une tempête pour lever. Alors l'homme, il peut être lourd, il ne bouge pas, il ne prend pas d'initiative. Sur ça, le Chacham, il dit, sois léger, prends une initiative de faire des mitzvot, va étudier, va faire des mitzvot, va faire des maasim tovim. Pour tout ce qu'on a besoin dans la vie, tu as besoin des chaussures, va acheter les chaussures. Tu as besoin de costume, bouge-toi. Ce que tu as besoin, sois léger, ne sois pas lourd. Alors, cale, commence, prends une initiative. Ça, c'est cale comme un aigle. Après, ratskatsvi, c'est quand tu as commencé à faire quelque chose. On peut faire la chose avec lourdeur, lentement. On peut faire les choses avec zrizout, en cours. Le Tan, il te dit, rats, pour faire des mitzvot, cours, ne fais pas lentement. D'abord, lève-toi facilement, et après, cours comme un cerf qui court. Cours vers faire un mitzvah. Et Gibor, sois fort, kari, comme un lion. Alors, c'est le lion, c'est le plus fort. Avec un lion, on ne joue pas. Alors, le lion, il est fort, alors tu dois être fort. Fort contre qui? Alors, ça, la Mishnah, elle a déjà dit, on a déjà vu une autre Mishnah. Eizur Gibor, à Kovesh et Yitzro, pour dominer son Yetzer. Sois fort, ça veut dire. Ose, ça veut dire ne te laisse pas décourager. Va faire la guerre contre Yetzirara. Parce qu'une des stratégies de Yetzirara, c'est de faire peur à l'homme. Oh là là, moi je suis plus fort que toi. Et surtout, ne commence pas à me faire la guerre. Hein? Yetzirara dit à l'homme, n'essaie surtout pas de gagner contre moi. De toute façon, je suis plus fort que toi. Et bien toi, homme, tu dis, moi je suis un lion et je vais réussir. Le lion, quand il attaque, il gagne toujours. Alors moi, je vais attaquer et je vais gagner. Toi, Yetzirara, n'essaie surtout pas de me faire impressionner. Je vais gagner la guerre contre toi. Je t'attaque et je te mange et je te tue et je t'avale. Il ne faut pas avoir peur du Yetzirara. Ça, c'est Gibor Kari, sois fort comme un lion. La sotre tzon avich shebeshemaim, quand il s'agit de faire la volonté de ton Père au ciel. Ou à Yomer, et c'est même Tana, qui c'est ce Tana? C'est toujours Yehuda ben Teima. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Azpanim la Gehinom, ce qui apprend la qualité ou le défaut, la caractéristique de l'insolence, insolent, non-soumission, on ne se soumet pas, rebelle, khatsouf, on balance tout, on rejette tout ordre, et toute hiérarchie, eh bien, le Gehinnom, ça finit dans le Gehinnom, parce qu'on va mépriser à ces gens la Torah, les Rabbanim, les Moussar, les bons comportements, les Midot Tovot, avec une chutzpah, avec une légèreté, on va marcher sur les bonnes coutumes, sur les derechers qui s'installent dans le monde, et les gens respectent, lui ne respecte pas l'ordre, il va finir avec le Géhennom. Ou Boshet Panim, ce qui a de la décence, du respect, il est respectueux des gens, à plus forte raison des sages, des personnes âgées, et des lois établies, des bons comportements, il respecte les choses de valeur, le Gan Eden. C'est par ce chemin-là que l'homme arrive au Gan Eden. Maintenant, il termine avec une tfila sur Kacham. Yiratzon Mifanech Hashem Elokeinu, que ce sera ta volonté, notre Dieu, que tu construis ta ville, bientôt à notre, en nos temps. Ça veut dire, on peut déjà déduire que ce Chacham Yehuda ben Tema, il a vécu après le Chorban du Beth Amikdash. S'il avait vécu avant le Chorban, avant la destruction de Jérusalem, ça n'a pas de sens de dire, Yiratzon, qui tu vas construire ta ville. La ville de Jérusalem était construite. Donc, évidemment, on voit déjà un phénomène historique ici. Je ne sais pas à quel moment il a vécu Yehuda ben Tema, mais en tout cas, c'était après la destruction. Peut-être c'était proche de la destruction, c'est pour ça. Ou peut-être c'était 100 années après, je ne sais pas. « Che tivne ircha, que ta ville sera construite, bimheira vite, beyameinu à notre époque. » On a souvent cette expression, bimheira beyameinu, toujours on dit ça. Ce sont deux notions, « meheira », c'est-à-dire « construire vite », et « beyameinu », c'est dans notre époque, dans notre génération. Depuis ce Yehuda ben Tema jusqu'à aujourd'hui, on répète toujours que ce sera Beyameinu à notre époque. Mais même si c'est à notre époque, ça peut être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut être doucement, mais on espère que ça s'accélère. L'ignan de la construction du Yerushalayim, c'est dans quelle génération ce sera construit, et si c'est construit, à quelle vitesse. Parce que la construction peut durer 200 ans. Elle peut durer 10 ans. On voudrait que ce sera Bemeira. On voit aujourd'hui Yerushalayim depuis. Bon, Yerushalayim, il a dormi pendant presque 2000 ans, ça a dormi. Au 19e siècle, doucement, doucement, ça a commencé à construire. Et après le 20e siècle, un peu plus aujourd'hui, je pense, Yerushalayim, Blainara, il y en a 1 million de gens qui habitent dedans. C'est devenu une grande ville. Qui aurait rêvé il y a 100 ans en arrière, Yerushalayim, il y aura 1 million de gens, ou peut-être proche d'un million, je ne sais pas exactement. Personne n'est rêvé. Et des quartiers, des beaux quartiers, c'est grand et c'est beau, c'est plus beau que Paris, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de photo. Je marche à Paris, moi, je ne parle pas du 18e arrondissement, ça n'en parle pas, mais beaucoup d'autres quartiers aussi. Jérusalem, c'est une ville extraordinaire, elle est belle même, physiquement elle est belle. C'est un phénomène, il y avait un maire à Jérusalem, il s'appelait Teddy Collet. Je ne sais pas s'il faisait mamache partie des 36 tzadikim, je ne suis pas 100% sûr. Mais lui, il était makpid qu'on fait une ville qui est belle. Moi, je veux une ville qui est belle. Akadosh lui a mis dans la tête comme ça. Phénoménal. Lev melachim vesarim beyad Hashem, le kol hasheyach bo tzadikim. Dieu y met les idées dans la tête des rois, des ministres. Toi, tout ce que tu es, tu vas faire une belle ville, la ville de Dieu, la ville qui est dans le futur sera le Beth Amikdash dedans, la ville que tout le monde va venir ici pour Aliyat HaRegel. Tu vas faire une belle ville. Hachem lui a mis cette idée dans la tête et ça marche. C'est extraordinaire. Et bien, Yehuda ben Tema, il a prié ça. Chez Tivne, Ircha b'mira b'menu, que ta ville sera construite. Vite, qu'elle ne traîne pas trop la construction. B'yamenu, que ce sera à notre époque. Et donne-nous notre part dans ta Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre part, c'est-à-dire un homme, il a une part dans la Torah d'Hachem. Une part, ça veut dire Dieu, il attend de chaque homme un certain degré de connaissance de Torah, d'application de la Torah. Ça, c'est ta part. Telle et telle mitzvah, spécialement, ça t'appartient. Vas-y. Dégourdis-toi, cours derrière cette mitzvah. Il faut faire tous les 613 mitzvot, évidemment. Mais il y a une part spéciale. Il y a des mesertot qui sont plus, ça correspond plus à la personnalité de M. X, de M. Y. Il y a des mitzvot que son corps, sa condition de vie, son intelligence, ses copains, son intérêt sont plus. D'après la racine de sa neshama, chaque homme, il a une partie dans la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem, pourquoi on dit Torah Techa, ta Torah? Mais et pourquoi? Parce qu'il y a une autre Torah. Il n'y a pas une Torah d'Hachem. Il y a une Torah des humains. Les humains, ils sont mechadeshim quelque chose. On est mechadesh. Mais il faut que toi, tu seras mechadesh. Ça correspond à la Torah d'Hachem. Il faut que tu ne fais pas des Torah fabriquées qui n'ont rien avec le bon Dieu. Il va dire, ça, c'est pour lui, c'est cette Torah, mais ce n'est pas la mienne. Ça, c'est la tienne. Ça, ce n'est pas la mienne. Eh bien, on ne voudrait pas se tromper dans la Torah. Donne-nous notre part dans la Torah, mais que ce sera vraiment dans ta Torah, la Torah qu'Hachem, il a dit. On ne se trompe pas dans la Torah. Et pourquoi il finit comme ça? Ça veut dire, c'est avec les quatre madrigotes qu'il a dit avant, le Azkanemer, Kalkane, Sheratz, Katsvi, Yibokari, de faire la volonté de ton Père au ciel. Il répète, la volonté de ton Père au ciel est Toratecha ta Torah. Ça veut dire tous ces midotes qu'on utilise, courir, parce que l'homme il peut courir, il court, toute la vie il court, et il croit qu'il fait des grandes choses. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils courent et ils pensent que je suis arrivé et je fais. Et à la fin, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Je fais ça, je fais ça. Et ça correspond à quoi? Des bonnes choses. C'est la Torah de Dieu ce que tu as fait? Est-ce que ça correspond au plan divin? Il espère, non, mais il prie, Yud Ben Tema, donne notre part dans ta Torah. Kebemet, c'est ta Torah et notre part. Je n'ai pas besoin de tard de la Torah de quelqu'un d'autre, pas le chélek de quelqu'un d'autre. Mon chélek, donne-moi mon chélek. Ou Haya Omer, lui disait aussi, c'est toujours Yud Ben Tema, Ben Chamesh Shanim la Mikra. Quand on a 5 ans, la Mikra, on rentre étudier Mikra. Mikra, c'est la lecture. C'est la lecture de la Torah écrite. La Torah est écrite, elle est composée par le Chumash, bien sûr, et tout le Tanakh, Yoshua, Shoftim, Shmuel, Malachim, tous les prophètes, et après les Ketuvim, Ruth, Megillat Esther, Kohelet, Yecha, etc. Ça, c'est Mikra, ça, c'est écrit par Ruach HaKodesh. Ce qui est écrit au Hakodesh, et chaque mot est compté, et chaque lettre est comptée. Donc, à 5 ans, on se met à étudier. Et naissant la Mishnah, quand on arrive à 10 ans, on fait la Mishnah. Alors, la Mishnah, ça, c'est déjà la Torah orale. La pirouge de la Torah écrite. Donc, de 5 ans à 10 ans, on connaîtra tout le Tanakh. À 10 ans, on fait les Mishnayot. Ça, c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est le commentaire de la Torah écrite. C'est vrai qu'à une autre époque, les achronim, ils ont changé un petit peu. Je ne sais pas à quel moment ça a changé, peut-être à l'époque de la Gemara aussi, je ne sais pas. On a fait un peu plus, les Mishnayot un peu plus vite que 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait des forces dans le monde qui essayaient de dire que la Torah écrite est plus importante que la Torah orale. Et en que Torah orale, Torah écrite, laisse la Torah orale, elle n'est pas importante. Alors, ils ont dit, non, commence la Torah orale un peu plus tôt, tout de suite. On commence le Chumash, tout de suite avec Rashi Behemet. On ajoute, oui, la Torah orale pour apprendre que la Torah orale fait partie. Il n'y a pas de Torah écrite sans Torah orale. Mais Tana, il parle ici en théorie quand il n'y a pas ces risques. Venessa la Mishnah. À 10 ans, on se met les Mishnayot. Donc, le Mishnayot, ce n'est pas seulement ce que nous appelons Mishnayot. Mishnah, la Mishnayot que nous allons, de Rebbe, les Sish Sidre Mishnah, c'est Rebbe, c'est Yehuda ben Teima, il a peut-être il est à l'époque de Rebbe, mais il n'était pas après Rebbe, la Mishnayot, Rebbe, il a terminé à la fin de sa vie ou vers la fin de sa vie. Lui, c'est un enseignement qu'il a reçu de ses maîtres même plus tôt. Évidemment, Mishnah dans la Gemara. Le mot Mishnah ne veut pas dire seulement la Mishnah de Rebbe. Parfois, exceptionnellement, ça veut dire la Mishnah de Rebbe. Mais normalement, Mishnah, c'est l'enseignement de la Torah orale. Ça inclut tous les Sfarim, Aaron Rebbe, les Tosefta, et Sifra, et Sifri, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, tous les Drashot Chazal. Toute la Torah orale qui était transmise, et qui était écrite dans le livre, ou qui était transmise oralement, tout ça, on appelle Mishnah. La Mishnah, c'est l'enseignement oral que Moshe Rabbeinu a donné. Et nous trouvons, bien sûr, après, entre autres, dans la Mishnah et dans tous les Sfarim, après, qui racontent la Torah orale. Ben Esser, la Mishnah. Ben Shlosh Esre, la Mitzvot. À 13 ans, on rentre dans l'obligation de mitzvot, c'est la bar mitzvah. D'où vient cette histoire de 13 ans? Le Rosh, il dit, c'est halakha le Moshe Missinaï. 13 ans. En vérité, il y a machlok el Bet Shemay Bet Hillel. D'après Bet Hillel, le garçon, il est bar mitzvah à 13 ans. La fille à 12 ans. Et puis Bet Shemay, c'est le contraire. C'est la fille, elle est bar mitzvah, bat mitzvah à 13 ans. Et le garçon, il est bar mitzvah à 12 ans. C'est-à-dire, les deux, aussi Bet Shemay, aussi Bet Hillel, ils avaient une Kabbalah. Mais puis, je ne sais pas, depuis Moshe Rabbeinu, probablement. D'après le Rosh, ça vient de Moshe Rabbeinu, cette définition. Il y avait une Kabbalah qui c'est 12 ans, 13 ans. Mais la question est se poser, est-ce que c'est les garçons, est-ce que c'est les filles? On savait qu'il y a une différence garçon et filles. Pour ça, il y avait un machloket à la hâte, comme tout le monde disait. Les garçons, c'est comme Bet Hillel, c'est Ben Shlosh Esrei. Ben Shlosh Esrei la mitzvot. Ben Chamesh Esrei la Talmud. Donc Talmud, c'est déjà le pilpul. C'est le pilpul Talmud. Nous, on dit, on a le Talmud Bavli, le Talmud du Rochalmi. Mais le Talmud Bavli, il était écrit 4 siècles après que ce Rav il est venu, ou 3 siècles après. Mais lui aussi parle de Talmud. Le mot Talmud n'est pas d'après ce que nous appelons le Talmud Bavli. Le Talmud Bavli, c'est le concentré du concentré du Talmud, des discussions talmudiques, les discussions que tous les Tanaïm, les Timans de leur époque, ils faisaient aussi les Talmud. Justement, les discussions, l'expression de la Gemara, que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il connaissait Havayot de Abaye et Rava. Les questions, Abaye demande un kushia, Rava il répond, Rava pose un kushia, Abaye répond. Les discussions Abaye et Rava, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il le connaissait. Ce n'est pas qu'il le connaissait au nom d'Abaye et Rava, il connaissait dans sa tête, lui-même il a fait la même pilpoul. Abaye et Rava, 3 siècles, ils vont après faire un pilpoul. Rabbi Yochanan ben Zakkai aussi faisait ce pilpoul. Le Talmud, la discussion qu'il y a entre les Tanaïm, hein, il pose la question, il répond, il varère les choses. Ça, c'est à partir de 15 ans, Talmud. Ben Shmona Israël, la Choupa. À 18 ans, on se marie. Alors, quel est le sens de ces dates? Quand tu dis Ben Chamesh, est-ce que ça veut dire 5 ans, pas plus tôt, ou il veut dire pas plus tard? En principe, c'est les deux choses. Pas plus tôt, pas besoin de faire étudier à part moins que 5 ans. Si quelqu'un il veut, mais il n'y a pas d'obligation moins que 5 ans. Laissez les enfants jouer, il faut un peu jouer aussi. Pas besoin de faire avant 5 ans normalement. Mais dommage de faire plus tard que 5 ans. Si on peut commencer à 5 ans, c'est mieux qu'à 6 ans. Parce que plus vite qu'on commence, mieux le sechel il se développe. Donc c'est une date plus ou moins, c'est mieux de ne pas le rater. Et on n'a pas besoin de faire avant, peut-être c'est mieux de ne pas faire avant. Et venez sur la Mishnah aussi. Ça veut dire, s'il n'y a pas de besoin de faire la Mishnah avant, remplis-toi d'abord avec toute la Torah écrite. Après, ben, c'est le Talmud, là, la charifout, il arrive. Mais c'est dommage de rater les moments, pas faire plus tard. Maintenant, ben, Shmona, Israël, la choupa. C'est bien de se marier à 18 ans. Bon, la Gemara nous raconte, pas tout le monde se marie avec 18 ans. Déjà, à l'époque de la Gemara, ce n'est pas une date qui a la chalamoshe Sinai, comme le pour la bar mitzvah de 13 ans. Ce n'est pas la chalamoshe Sinai. Bon, la Gemara, on voit qu'il y avait des Amoraïm qui se mariaient plus tôt même. Il y a des Amoraïm qui se mariaient, évidemment, beaucoup plus tard. Qui va se marier à 40 ans. Il y a beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des raisons. Il faut se remplir encore la Torah, mitzvot plus tôt. Mais c'est une bonne date déjà à partir de 18 ans. Mais c'est après que tu as étudié un peu de Talmud. Il faut étudier un petit peu avant. En tout cas, on ne se marie pas à 13 ans. Près de 13 ans, malgré qu'on est chayav de faire des mitzvot. Mais la mitzvot de se marier, on laisse un peu plus tard. Pourquoi? Ce n'est pas à 13 ans que tu es capable déjà d'entretenir une famille, etc. Benesrim Lirdof. À 20 ans, Lirdof. On va poursuivre la Parnassa. C'est-à-dire, il est déjà marié 2 ans. Après 2 ans, après le mariage, il faut que tu te bouges, mon vieux. Il faut que tu trouves Parnassa. Et les premiers 2 ans, qu'est-ce qu'il mange? Les premiers 2 ans, ça ne coûte pas très cher. Ouais, souvent, on vit encore chez les parents. On n'a pas encore une grande famille. On n'a pas besoin de grand-chose au début du mariage. Donc, eh bien, continue à étudier. Tu es rentré à Talmud à 15 ans, étudie jusqu'à 20 ans. Reste un peu au collège, c'est pas grave, c'est la famille est petite. Mais après, à un moment, la famille grandit. Ben, il faut trouver Parnassa. Eh bien, Lirdof. Lirdof, c'est poursuivre pour dire il faut se bouger pour la Parnassa. Et c'est pas un avera, c'est un ishtadlut. Ishtadlut, c'est une mitzvah. Une mitzvah, il faut s'investir dans la Parnassa. c'est pas une honte, c'est pas un péché, c'est pas bitul Torah. On a le droit de s'investir. Rachid dans Moseret Brachot, il faut travailler. Maintenant, il y a des gens qui ont le sroud de pouvoir étudier toute leur vie, aux 10 ans, 20 ans. Mais il y a des gens comme ça. Dieu leur donne un sroud spécial. Ils peuvent étudier 10 années au collège, 5 années, 15 années, 20 années au collège, Ashrei Lahem. Mais l'homme normal, le juif normal, il a étudié 5 années à la yeshiva. Il a étudié 15 années depuis le cheder de 5 ans jusqu'à 20 ans. Il a étudié pendant 15 années. Après toute la vie, on est converti à Torah. Mais il faut avoir la parnassa normalement. Il parle d'un juif. À la majorité des juifs qui ont besoin de parnassa. Et pour la parnassa, l'irdof, tu vas courir derrière la parnassa. Ben esrim l'irdof. Ben shloshim la kouach. Quand tu as 30 ans, la kouach. Là, la vraie force de l'homme, on arrive à 30 ans. Ben arbaim la bina. À 40 ans, on commence à être un mevin. L'intelligence commence plus à mûrir. C'est-à-dire la kouach. On a une force physique. À 30 ans, tu as une force physique et tu peux bien développer. À 40 ans, c'est déjà un peu moins le koach, mais ça s'ajoute la bina. À 50 ans, on peut déjà donner des conseils. On a une expérience de vie. Un eitza de quoi? Pour parnassa, pour comment les gens doivent vivre. Ou un eitza de la Torah. Un eitza comment lutter contre les tzarara. Un conseil comment les gens doivent s'organiser pour bien vivre Gashmi et bien vivre Rouhani. C'est deux choses, donner un conseil parce qu'il a une expérience de vie. Quand on est jeune, on n'a pas cette expérience. On croit connaître, mais on ne connaît pas. Tous les jeunes y pensent qu'ils savent. Les jeunes y pensent qu'ils savent toujours mieux que les vieux. C'est vrai que les jeunes, ils ont plus de puissance et plus d'enthousiasme. Ça, c'est vrai. Et ils ont plus de volonté d'arriver. Il fallait toujours l'intelligence et l'expérience des vieux. Il fallait les attacher à l'enthousiasme et le dynamisme des jeunes. Alors là, c'est merveilleux. Alors, en tout cas, ben chamishim, la itza, ben shishim, la zikna. À 60 ans, on arrive à zikna. On est déjà saken, c'est un plus grand chokma. Ben shivim, la seva. À 70 ans, on arrive Seva, c'est encore un madriga de plus. Qu'est-ce que le Tani veut nous dire? Il faut profiter. Il profiter, tu veux un Eitza. Va chez quelqu'un qui a 50 ans, pas quelqu'un qui a 25 ans. Tu as besoin plus de Chochma. Seva, c'est déjà Seva quand tu as les cheveux blancs. Ben Shmonim la Gvura. À 80 ans, c'est Gvura, c'est la puissance. Alors, c'est quoi son puissance? Ça, c'est un peu étonnant. À 80 ans, on a la puissance, c'est pas dans les muscles. C'est pas à 80 ans qu'on arrive à des muscles. Ici, Gvura, évidemment, c'est l'évidence. Gvura, c'est le Eizu Gibor, à Kovesh et Titzro. Très facile, à Kovesh les Etzara. À 80 ans, on a plus les Etzara de toutes ces bêtises de ce monde-là. Et donc, comme on est débarrassé de Yetzara qui tourne la tête, alors donc, eh ben, il faut s'inspirer d'eux. Il faut écouter ce qu'ils disent. Quand eux, ils disent, etc., il ne faut pas courir derrière. Il ne faut pas courir derrière. Ils savent que c'est nul. Un jeune qui dit, il ne faut pas courir derrière les tzarara. Oui, mais vous savez bien que les tzarara, ça satisfait l'homme. Mais à 80 ans, on a bien compris que tout est nul et non avenu. Ceux qui ont 80 ans, pour lui, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est qu'on bêtise, que les gens, ils se perdent avec la nourriture et les autres bêtises de ce monde. Mais qu'est-ce qu'ils s'embêtent? À 80 ans, c'est Gvura. Là, c'est facile. Les Kovesh et Titzro, il n'y a pas de problème. Donc, eux, ils peuvent te dire qu'est-ce que c'est nul, etc. Et ici, la Shuach. Ici, il y a deux traductions. Un, c'est la Shuach, les deux lectures. Ou la Shuach, c'est incliné. Ou la Shuach, parler. La première chose, parler, il faut parler des divrei Torah. On peut encore parler à 90 ans. Il faut encore utiliser tout ce qu'on peut de parler Torah. Mais la Pshat Pashut, la Shuach, on s'incline, le corps devient un petit peu incliné. Qu'est-ce que le Tani veut nous dire? Qu'il faut que l'homme il prépare sa valise. Donc, c'est Hachem, il a fait comme ça que le corps, avec le temps, il s'incline pour qu'il prépare, pour qu'il sache qu'il ne vivra pas éternel. Ce qui est incliné déjà, il le ressent 24 heures sur 24 heures que ses jours, ses années ne sont pas comme autrefois. Donc, il mettra toute la force dedans pour faire tshuva, mitzvot, tomah, asim, tuvim, tout ce qui lui reste. Donc, c'est des annonces. Hashem lui annonce le prochain départ, que le fait que son corps il est incliné. Ben Mea, quand il en a 100 ans, qu'il ou met, va avoir au batel min haolam. C'est presque, on joue plus aucun rôle dans ce monde. Donc, le Tanne veut nous dire, avant que vous êtes 100 ans, alors essayez encore de rattraper le maximum avant que vous arriviez à 100 ans. Mais non, assez, on va. Il y a des gens qui ont 100 ans, ils ne sont pas du tout mettre au batel min haolam. Rabbi Akiva, il a vécu 120 ans. Et jusqu'au dernier jour de sa vie, il avait toute sa tête, il guidait les Juifs. Et il enseignait avant de mourir. Il était dans la prison et Rabbi Shimon est venu étudier. D'autres rabbins sont venus étudier. Rabbi Yochanan Zakkai, il a vécu 120 ans. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. Il a vécu 120 ans. Et tous les quatre personnes, ils étaient encore avec toute la tête jusqu'à la fin. Donc la Mishnah ne veut pas nous dire forcément à 100 ans, c'est avoir au batel min olam. Il y a des exceptions, mais globalement, c'est quand même comme ça. Et l'État nous le dit, tu as intérêt de faire le maximum avant que tu arrives à l'âge de 100 ans. À demain, Bezrat Hashem.